Le livre des Actes, si vous n'avez pas l'habitude de lire le Nouveau Testament, le livre des Actes se trouve juste après les évangiles. Donc il y a 4 évangiles et puis le livre des Actes. Et j'ai dit la semaine dernière que le livre des Actes, c'est comme les livres d'Esdras et de Néhémie dans l'Ancien Testament, dans le sens où ce livre décrit aussi un projet de construction. La construction d'un temple dans les deux cas. Mais cette fois-ci, dans le livre des Actes, il s'agit d'un nouveau temple et une nouvelle alliance. La nouvelle alliance dont nous avons parlé aujourd'hui au moment de la Sainte Cène. Après la résurrection de Jésus, Dieu a remplacé l'ancien temple de pierre à Jérusalem avec un temple vivant qui va se répandre maintenant dans toute la Samarie, toute la Judée, toute la Samarie, jusqu'au bout de la terre. C'est Actes 1-8. Le livre des Actes commence avec ce rappel que maintenant le temple va se répandre jusqu'au bout de la terre. Et donc le livre des Actes, c'est l'histoire de l'Église en train de se répandre. Jésus bâtit le nouveau temple du Dieu vivant. Et la première chose que Jésus fait pour bâtir ce temple, pour bâtir cette Église, c'est l'envoi du Saint-Esprit. Cet Esprit qui avait été promis par les prophètes et par Jésus lui-même. Et lorsque les disciples sont remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? De merveilleuses choses commencent à se produire. Tout d'abord, on a vu au chapitre 2, 3000 personnes sont converties par la prédication des apôtres. C'est-à-dire 3000 personnes mettent leur foi en Jésus et décident de le suivre. Et le chapitre 2 se termine avec ce verset. Ils louaient Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait à l'Église. Là, c'est un bon rappel. On appelle ce livre le livre des Actes des apôtres, mais c'est Jésus qui est à l'œuvre. C'est Jésus qui rajoute à l'Église. Même si c'est la prédication des apôtres, Jésus, le Seigneur, a rajouté chaque jour ces personnes à l'Église. C'est-à-dire la construction avance. Chaque personne qui est sauvée, c'est une pierre dans ce nouveau temple. Et la question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est comment pouvons-nous participer à cette mission, ce projet de construction, comme les disciples dans ce passage. Si nous avons mis notre foi en Christ, nous faisons partie de l'Église. Alors, comment pouvons-nous maintenant participer à sa construction? En partageant la bonne nouvelle comme les apôtres, pour être témoins de Jésus. On va lire donc chapitre 2, puis je vais proposer 2 points de base et puis un schéma assez simple pour partager l'évangile. On va lire donc, j'ai dit chapitre 2, chapitre 3, on va lire chapitre 3. Actes 3.1. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé Portique de Salomon. Quand Pierre vit cela, il dit au peuple, « Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous le regard sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était lui, David, de le relâcher. Mais vous, vous avez renié celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Moïse a dit en effet à nos ancêtres, « Le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous parmi vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus et il a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Amen. Qu'est-ce qui se passe donc dans ce passage? Il y a beaucoup de choses. Les disciples viennent de voir 3000 personnes converties par la puissance du Saint-Esprit qui les avait remplies. Et maintenant, ils sont à l'extérieur du temple. Et Dieu fait un miracle. Déjà, c'est important. Ils sont à l'extérieur du temple parce que ce n'est plus le temple de Pierre qui compte. Et tout de suite, Pierre et Jean insistent que ce n'est ni leur puissance, ni leur piété qui a guéri cet homme. C'est la puissance de Jésus. C'était le thème, en quelque sorte, de mon message dimanche dernier. Et du coup, je ne vais pas tout redire. Mais rappelons-nous, pour faire partie de ce projet, il ne faut jamais oublier que ce n'est pas une question de ma propre puissance, ni de ma propre piété. C'est une question de la puissance de Jésus. Sinon, c'est très facile de nous imaginer, lorsque Dieu nous utilise, que c'est parce que nous sommes quelqu'un de bien. Et que si nous n'avons pas l'impression d'être utilisés par Dieu, c'est parce que nous sommes nuls, spirituellement parlant. Mais ici, Pierre et Jean insistent que ce n'était pas leur piété qui a guéri cet homme. C'était Jésus, pur et simple. Quoi que nous fassions dans ce projet de construction, ça doit être Jésus qui agit à travers de nous, les actes de Jésus. Et comme Isaac l'a dit jeudi soir au temps d'intercession, nous ne sommes que des canaux pour le Saint-Esprit. La deuxième chose qu'on constate dans cet échange, c'est la façon dont Pierre et Jean regardent l'homme. et le fait qu'il lui demande de les regarder. Pourquoi? Pourquoi disent-ils, regarde-nous. Il y a plusieurs raisons, mais à la base, tout revient au fait qu'en regardant cet homme dans les yeux, Pierre et Jean créent un lien personnel avec lui. C'est-à-dire, ils traitent cet homme comme un être humain, non pas comme une autre tâche à accomplir, ou un accessoire à leur prédication, une occasion d'impressionner la foule. On peut bien imaginer, si j'arrivais à guérir quelqu'un aujourd'hui, maintenant, tout de suite, vous allez m'écouter. Vous pouvez imaginer la tentation d'utiliser les gens comme un accessoire à sa propre mission, à ses propres idées. Mais ce n'est pas ce que Pierre et Jean font. Cet échange, ce miracle, c'est personnel. Il est très possible dans notre ministère, dans notre service, dans notre évangélisation même, c'est-à-dire dans nos vies de tous les jours. Il est possible de ne plus voir les gens que nous croisons comme des êtres humains, mais comme des objets, ou pire, comme des obstacles. Prier avec quelqu'un sans vraiment se soucier de ce qu'il vit, donner de l'argent à la femme qui fait la manche sans la regarder, parler de Jésus sans vouloir connaître la personne à qui on parle. Dans ces cas-là, nous n'avons rien à offrir, vraiment. Rien d'important dans tous les cas. Parce que ce qui est important, c'est ce qui est spirituel. Et ce qui est spirituel est personnel. Si on ne parlait que de la magie, ce serait autre chose. On touche la personne, on dit le mot magique, et puis on passe à la prochaine. Mais Jésus n'est pas comme ça. Voilà pourquoi, lorsque la femme en Luc 8 le touche, vous connaissez cette histoire, Jésus demande « Qui m'a touché ?» Parce qu'il ne veut pas la guérir physiquement sans la connaître personnellement. Sinon, la guérison physique ne sert à rien si on ne connaît pas Jésus personnellement. Et ici, donc, en acte, Jésus ne veut pas juste guérir les jambes de cet homme. Il veut guérir son âme. Et pour ça, il faut que cet homme rencontre une personne. Jésus, qui est présent en ses disciples par son esprit. Les gens peuvent rencontrer Jésus en toi, si tu as son esprit en toi. Et voilà aussi pourquoi les disciples disent à l'homme de les regarder. Parce que le contact personnel va toujours dans les deux sens. La personne de Jésus vient vers cet homme à travers les disciples, mais lui, est-ce qu'il va répondre ou pas? Nous disons souvent que la foi chrétienne, ce n'est pas une religion, c'est une relation avec Dieu. Et une relation va dans les deux sens. Tant que nous n'avons pas compris ça, nous serons incapables d'inviter les autres à le connaître, car nous ne pourrons pas leur offrir cette relation personnelle si nous ne l'avons pas nous-mêmes. C'est sûr que par la puissance du Saint-Esprit, Dieu peut amener une personne au salut par des moyens impersonnels, un tract, un site web, un prédicateur sur la rue. C'est vrai. Mais tôt ou tard, cette connaissance doit devenir une relation. Si nous voulons vraiment que Dieu nous utilise pour bâtir son Église, n'hésitons jamais à prendre le temps pour regarder les gens dans les yeux, afin de les connaître et qui rencontrent l'Esprit qui habite en nous. Ce sont donc les deux points préliminaires. Ce que nous faisons, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait à travers nous. Et le but de ce que nous faisons, c'est que la personne en face rencontre la personne qui habite en nous par cet Esprit, Jésus. Je ne sais pas comment vous envisagez l'évangélisation quand vous entendez ce terme-là. Mais dans un sens, c'est aussi simple que ça. Que la personne en face rencontre Jésus qui habite en nous. Que la personne en face rencontre cette personne. Et finalement, nous devons aussi, pour cette première partie, nous devons être prêts, lorsque le moment arrive, à parler clairement de ce Jésus qui est en nous. L'apôtre Pierre lui-même, qui est ici en Acte 3, il va écrire plus tard, en 1 Pierre 3,15, « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect. » Là, l'apôtre Pierre parle de ce qu'il a fait en Acte 3. Et il nous demande de faire, il nous dit de faire pareil. Et il ne faut pas tromper là-dessus. Tôt ou tard, il faut parler. La personne peut voir Jésus dans nos yeux. Mais tôt ou tard, il faut aussi parler de Jésus. Parfois, on entend citer une phrase dans certains milieux par rapport à l'évangélisation qui dit « Prêchez toujours l'évangile et si nécessaire, utilise des paroles. » Et on peut comprendre pourquoi. Parce que c'est vrai que ce n'est pas juste nos paroles qui proclament Jésus. Ça doit être nos actions aussi, n'est-ce pas? Toute notre vie doit proclamer Jésus. Mais, et voici le problème un peu avec cette phrase que j'ai citée, si on arrête là, si nous nous arrêtons à ce que disent nos actions, ça ne va pas suffire pour la personne de vraiment connaître ce Jésus. Et c'est pour ça que lorsque l'occasion arrive, les disciples n'hésitent pas à dire la vérité clairement, mais aussi avec une certaine douceur. Après la guérison de l'homme boiteux, la foule voit cet homme guéri et il court vers lui et Pierre et Jean pour savoir ce qui s'est passé. Et déjà, c'est intéressant de noter que Pierre et Jean n'ont pas fait un spectacle de leur échange avec cet homme. Ils ont simplement fait ce que Dieu leur avait donné de faire, n'est-ce pas? Mais lorsqu'une vie est changée, réellement transformée par Jésus, les gens vont s'en rendre compte. Et ils vont venir voir. Et ils vont avoir des questions. Et c'est à ce moment-là où les disciples n'ont pas hésité. Ils ont expliqué la bonne nouvelle. Ils ne se contentent pas de dire « Oui, Jésus a fait ça », sans en dire plus. Jésus a guéri cet homme. Parce que ça ne suffit pas. C'est un bon début, mais ce n'est pas assez. Ils doivent expliquer comment ces gens, eux aussi, peuvent avoir cette même guérison. Sur le plan spirituel, comment ces gens peuvent eux aussi avoir cette même guérison qu'ils ont vue, cette même puissance, cette même bonne nouvelle pour devenir guéri, pour être guéri. Vous savez le sens du mot évangile? C'est bonne nouvelle. Ça veut dire tout simplement bonne nouvelle en grec. Quand on évangélise, on annonce une bonne nouvelle. Les évangiles, ce sont les livres qui racontent l'histoire de Jésus, qui est une bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on les appelle les évangiles. Et quelle est cette bonne nouvelle, alors? C'est ça la question. Quelle est la nouvelle que nous annonçons? Que faut-il dire pour bien partager cette nouvelle? C'est la deuxième partie de ce que nous allons voir. Qu'est-ce qu'il faut dire? Alors, disons tout de suite qu'il n'y a pas de formule magique. Encore, nous parlons d'une relation, non pas d'une religion, entre guillemets. Et chaque personne est différente. Cela dit, il y a quand même certaines vérités qu'il faut dire tôt ou tard, si on veut bien partager la bonne nouvelle. Et Pierre les dit ici, en Acte 3. Il part du problème, il part de la solution et il part de notre réponse. D'abord, le problème. Pierre partage une mauvaise nouvelle dans un sens. Une mauvaise nouvelle, ce qui est en fait le début de la bonne nouvelle. Tout de suite après avoir annoncé que c'est bien Jésus dont on parle, qu'on parle, de Jésus qu'on parle, Pierre dit à la foule, verset 14, « Vous avez renié celui qui était saint et juste, et vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. » C'est une mauvaise nouvelle. Vous avez renié celui qui est saint et juste. Mais ça fait partie aussi de la bonne nouvelle. Parce que ce n'est qu'en reconnaissant le problème qu'on peut être amené à voir la solution, n'est-ce pas? Tant qu'on n'a pas fait la bonne diagnostic, on ne peut pas trouver la solution. C'est valable quand on est chez le médecin ou chez les garagistes. Et c'est vrai dans la vie spirituelle aussi. Nous avons tous des histoires où on a été chez le garagiste et il n'a pas fait la bonne diagnostic. C'est un désastre. Moi, quand j'avais à peu près 10 ans, nous avons découvert que mon petit frère était dyslexique. Et au début, on ne savait pas ce qui se passait. Il avait commencé à avoir du mal, des problèmes à l'école, mais on ne comprenait pas pourquoi. Même s'il aimait bien lire, il trouvait de plus en plus difficile. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais on n'avait aucune idée de quoi. Mes parents sont allés voir des spécialistes avec mon petit frère, mais ils ne trouvaient pas la solution. Et c'était très, très décourageant. Et pour mon frère et pour mes parents. D'un côté, ils ne voulaient pas entendre qu'il y avait un problème. Qui veut entendre ça? Mais très vite, ils se sont rendus compte que le fait de ne pas savoir était bien pire. Leur plus grande crainte, finalement, est devenue qu'ils ne sauraient jamais ce qui n'allait pas. Quand on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, franchement, ça peut être un soulagement de savoir de quoi il s'agit. Une bonne nouvelle dans un sens. Et même si on ne le vit pas comme un soulagement, c'est de toute façon la seule façon de trouver une solution. Et c'est comme ça pour tout être humain. Au fond de nous, nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde. Et surtout, il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Même si on refuse de l'admettre, quelque part au fond de nous, nous savons que ça ne va pas. Mais la plupart des gens ne savent pas de quoi il s'agit vraiment. Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est stressant. C'est accablant même. Leur esprit n'est pas en bonne santé, mais ils ne savent pas pourquoi. Et donc ils cherchent ici et là. Peut-être vous l'avez fait vous aussi. Le divertissement, peut-être un peu de psychologie, les addictions, un peu de tout. On fait tout pour trouver une solution ou au moins pour oublier que ça ne va pas. Mais tant qu'on ne sait pas ce qui ne va pas vraiment, rien ne va marcher. Et alors, qu'est-ce qui ne va pas? Si on vous demande qu'est-ce qui ne va pas, c'est quoi notre réponse? Selon la Bible, c'est assez simple. L'être humain s'est éloigné de Dieu. En tant qu'être humain, nous avons tous rejeté celui qui était saint et juste. Nous essayons d'avoir la vie sans connaître le prince de la vie, c'est-à-dire la source de la vie. Et du coup, nous sommes seuls et prisonniers dans le péché. Pour les gens à qui Pierre parle dans ce passage, c'était très, très littéral. Car c'était ces Juifs à Jérusalem qui avaient crié pour la crucifixion de Jésus. Il n'y avait pas longtemps de cela. Mais ce qui était littéralement le cas pour eux, c'est toujours le cas pour ceux à qui nous témoignons, les gens autour de nous. Chaque être humain, nous-mêmes d'abord, et puis chaque être humain qui nous entoure, a rejeté celui qui est saint et juste. Nous nous sommes éloignés de la personne, Dieu lui-même, qui peut nous donner la vie. C'est ça la diagnostic que Dieu nous donne dans la Bible. Et même si c'est une mauvaise nouvelle, c'est aussi une bonne nouvelle. Parce que maintenant, au moins, nous le savons. Maintenant, au moins, nous le savons. Quand nous parlons de notre foi avec quelqu'un, c'est facile de ne pas vouloir parler du péché. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours bien de commencer avec ça, ou avec ce mot-là, de toute façon. Ce mot a tellement de connotations maintenant dans la culture française que parfois il vaut mieux trouver un autre terme au début. On peut noter bien que Pierre lui-même parle avec douceur et respect lorsqu'il dit « Je sais que vous avez agi par ignorance ». Ça ne sert à rien de venir vers les gens avec une attitude de jugement et de condamnation. C'est pas ça le but. Non pas si on va témoigner de la grâce de Jésus. En même temps, Pierre ne cache pas la vérité difficile non plus. Ces gens ont agi par ignorance, oui. Mais ça ne change pas la réalité qu'ils ont mis à mort le prince de la vie. Ils ne mâchent pas ces mots. D'une façon ou autre, pour vraiment expliquer l'Évangile, il faut arriver tôt ou tard à exprimer clairement le problème fondamental de chaque être humain. Nous nous sommes éloignés de Dieu. Et c'est ça qui ne va pas. C'est ça qui ne va pas. Et très souvent, si la personne est prête, c'est-à-dire si le Saint-Esprit a préparé la personne en face, elle va trouver que c'est un soulagement de savoir enfin pourquoi. Enfin, pourquoi ça ne va pas? Elle aura déjà le sentiment que plein de choses ne vont pas bien dans sa vie. Et ce sera une bonne nouvelle de savoir qu'elle n'est pas seule dans cet état. Et en plus, qu'il y a une solution. Et quelle est cette solution? Quelle est la bonne nouvelle dont nous parlons finalement? C'est une double vérité. C'est la vérité qu'un jour, il y aura une restauration totale de toutes choses, de tout ce qui ne va pas, et que cette restauration peut commencer dans sa vie maintenant. Verset 20. Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur, et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Une restauration totale. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Des fois, je pense qu'on oublie même que c'est possible. On ne sait même pas imaginer une restauration totale. Mais Jésus nous dit, il nous offre la liberté éternelle par le pardon de nos péchés et le renouvellement de toutes choses, y compris notre âme. Je me souviens, quand mes parents ont commencé à vieillir, ils ont dit, on ne se souvient même plus de commencer d'avoir un cœur qui n'a pas un peu de mal tout le temps, qui n'a pas de mal à se lever le matin. On ne se souvient plus de ce que c'est d'avoir un cœur jeune. Je pense que des fois, nous ne nous souvenons plus de ce que ce serait d'avoir une âme jeune, une âme restaurée, une âme qui n'est pas brisée et marquée par le péché. Mais c'est ce que Jésus nous offre, une âme jeune, une âme restaurée. C'est ça que nous devons saisir pour nous-mêmes et c'est ça que nous devons partager avec les gens. C'est ça la bonne nouvelle. Parce que c'est ça la nouvelle que Jésus annonce. Je fais toutes choses nouvelles, il dit en Apocalypse. Et comme le verset 21 nous rappelle, cette restauration totale n'est pas encore arrivée, ça c'est clair. C'est ce que nous attendons avec foi et avec persévérance et avec espérance. Mais entre-temps, il nous promit, et lisez ce verset bien, il nous promit des temps de rafraîchissement qui viendront de la part du Seigneur. Si vous avez mis votre foi en Christ, j'espère que vous avez ressenti ces temps de rafraîchissement. Je sais que vous l'avez, parce que c'est ce qu'il promit. L'homme boiteux qui est guéri au début de ce chapitre, il n'est pas totalement restauré. Sa guérison n'en est qu'un avant-goût de la restauration totale. Son corps est toujours mortel, naturel. Un jour, cet homme va mourir. Mais déjà, nous lisons, la puissance de Dieu l'a affermi. Le mot affermi est répété deux fois pour le souligner, verset 7 et verset 16. Lorsque nous témoignons, nous ne pouvons pas promettre aux gens qu'une relation avec Jésus va rendre leur vie parfaite. Nous ne pouvons pas promettre que la restauration totale arrivera immédiatement, mais nous pouvons témoigner de l'affermissement et du rafraîchissement que Jésus nous donne déjà et de l'espérance que nous avons dans une restauration totale. C'est ça que nous avons à partager. J'ai entendu récemment le récit d'un pasteur qui se baladait dans les montagnes en Écosse avec un ami. Et le parcours était plus long qu'il pensait quand ils ont commencé le matin. Et il faisait extrêmement chaud ce jour-là. Et en plus, ils n'avaient plus d'eau avec eux l'après-midi. Du coup, ils ont commencé à imaginer le moment où ils arriveraient en bas au campement. Le repas qu'ils auraient, le repos, le fait de pouvoir tout simplement s'asseoir avec une bouteille d'eau. Mais après un peu de temps, ils commençaient à avoir peur qu'ils n'y arriveraient pas. Ils étaient extrêmement fatigués, leurs jambes ne voulaient plus bouger. Et d'un coup, ils ont vu un ami qui venait vers eux sur le chemin de la direction du campement. Vous avez encore une heure à marcher, il a annoncé. Une heure à marcher pour arriver au campement. Mais je pensais vous auriez besoin de ça. Et il sort deux bouteilles d'eau de son sac. Le pasteur et son ami, ils boivent cette eau, la meilleure eau qu'ils ont jamais bu. Et puis ils recommencent, rafraîchis et raffermis. Et leur ami marche. Leur ami marche avec eux jusqu'au campement et le repas qui les attend. Les gens autour de nous sont fatigués. Ils ont soif. Nous aussi, peut-être, mais pensons aux autres aujourd'hui. Le monde a soif. Et ce n'est que Jésus qui a l'eau de la Nouvelle Alliance, l'eau vivante. Et avec lui, cet avenir vient vers nous déjà dans le présent. Pour nous affermir et nous rafraîchir sur le chemin, si on l'accepte. Si on l'accepte. Et c'est ça le dernier point. Une bonne nouvelle n'est pas une bonne nouvelle si on le rejette. À l'époque de Jésus, on utilisait le terme évangélisant. Pour dire l'annonce d'une bonne nouvelle. Et on utilisait ce terme pour parler de n'importe quelle bonne nouvelle, mais surtout l'ascension d'un roi. Voici une bonne nouvelle, on aurait crié. César est monté sur le trône. L'Empire est en sécurité. C'est une bonne nouvelle, en tout cas pour ceux qui ont soutenu César. Pour ceux qui rejettent le nouveau roi, par contre, c'est une mauvaise nouvelle. Ceux qui continuent à rejeter ce roi, Pierre nous dit, ils ne peuvent pas faire partie du peuple. Du coup, verset 19, il fait l'appel. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Si le problème de l'être humain, finalement, c'est qu'on a rejeté le roi, celui qui est saint et juste, la seule solution est de changer et de l'accepter. Changer d'abord d'attitude, c'est ça le sens du mot « se repentir ». Changer d'attitude, l'attitude qui dit « j'ai pas besoin de Jésus, parce que ça va, merci ». Ou bien parce que même si ça va pas, Jésus ne peut rien faire pour moi. C'est pas vrai. Ça ne va pas. Mais il peut nous restaurer. Il est le roi sur le trône. C'est la bonne nouvelle. Il est le roi sur le trône et il est l'ami qui vient nous offrir de l'eau sur le chemin. Mais comment va-t-on boire si on le fuit? Si on va dans l'autre sens? Et donc Pierre dit, repentez-vous et convertissez-vous. Dieu nous dit, repentez-vous et convertissez-vous. Au lieu de fuir Jésus, approche-toi de lui. C'est l'invitation que nous avons d'abord à accepter nous-mêmes, bien sûr, et puis à partager avec les autres. C'est comme ça que Jésus va bâtir son Église. Je vous ai promis que ce message serait pratique pour notre témoignage. Un schéma simple pour garder en tête quand vous présentez l'Évangile à quelqu'un, quand vous témoignez de l'Évangile. Et donc, le voici. Il faut parler du problème. Sans Jésus, nous sommes seuls et nous sommes prisonniers dans le péché. Mais avec Jésus, nous avons quelqu'un qui nous offre la liberté par le pardon de nos péchés et le renouvellement de notre âme. Le problème, la réponse. Le problème, la solution et la réponse, il faut quand même répondre. Il faut répondre. Alors, bien sûr, quand nous partageons l'Évangile, il faut que ce soit un dialogue. Il faut qu'on adapte notre façon de présenter ces éléments selon les besoins de la personne. C'est une personne en face. Si nous écoutons la personne en face, si nous les regardons dans les yeux, la discussion sera fluide et pas forcément linéaire. Mais ce qui est important, c'est qu'on sache de quoi il faut parler tôt ou tard. Je vous encourage à méditer ces points, ces trois points. Pensez d'abord à la façon dont vous les avez vécues dans votre propre vie et comment vous aimeriez les partager avec quelqu'un d'autre. Et la prochaine fois que quelqu'un nous parle de ses soucis ou nous demande pourquoi nous avons la joie ou l'espérance, soyons prêts avec la réponse. Soyons prêts à annoncer non pas juste la bonne nouvelle, mais la meilleure nouvelle qui soit. C'est ça que nous avons. C'est ça que nous pouvons partager. Et c'est comme ça que Jésus va bâtir son Église. Prions ensemble. Seigneur, nous ne pouvons que te remercier pour cette bonne nouvelle que nous avons.